dernier rendez-vous de Curiosité 2023, le Curiosity Club Paris a reçu Soazig Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Convaincue que l'amour peut durer bien plus que 3 ans, à condition d'être active dans son couple, Soazig partage des idées concrètes et des conseils pratiques pour inspirer les partenaires qui souhaitent prendre soin de leur relation. Pleine d'énergie, pétillante et authentique, Soazig a à cœur de diffuser son message au plus grand nombre. Prête pour un shot d'inspi ? C'est parti !
Bonsoir tout le monde, je suis vraiment hyper heureuse de vous rencontrer ce soir. Merci d'être venu. Juste pour commencer, je vous demanderai d'écouter les paroles d'une chanson et je vous expliquerai après pourquoi.
Notre vie ensemble, et puis un beau jour, la chance a tourné. On finira par la partie ensemble, et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo-tu.
En fait, je vous passe cette chanson parce qu'elle a été le déclic de toute l'histoire de Save Your Love Date. Quand je l'ai entendue, ce n'était pas cette version-là, c'était la version d'Abba, parce que ça va faire déjà plus de 5 ans. Et aujourd'hui, en tout cas pour moi, Clara Luciani l'a détrônée. Maintenant, c'est celle-ci. En fait, quand j'ai entendu cette chanson, j'étais dans ma voiture. Je faisais un trajet assez long de Cherbourg à Nantes, j'étais toute seule. C'était il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et en fait, je me suis dit, quand il y a eu ces paroles, on s'est aimé, aujourd'hui on ne s'aime plus, bravo, tu as gagné, moi j'ai tout perdu. Je me suis dit, mais si un jour Arnaud me chante ça, Arnaud c'est mon mal aujourd'hui, je vais être dévastée. Je ne veux pas. Et je ne sais pas pourquoi vraiment il y a une peur et une angoisse qui sont venues en moi. Alors que franchement, on est un couple, enfin, on allait très bien, tout se passait très bien, donc j'avais aucune raison de le croire. Mais en même temps, je me suis dit comment je pourrais avoir la folie de penser que ça va durer toujours. Hyper chaud. Donc j'ai continué, le trajet était long, j'ai pensé, et je me suis dit, ok, tu ne veux pas qu'il y ait un jour à te sentir ça, qu'est-ce que tu fais pour ? Qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes heureux, qu'est-ce qui fait que vous êtes content de vous retrouver le soir, qu'est-ce qui fait que vous partez en vacances que tous les deux sans vos enfants, qu'est-ce qui vous tient. Donc j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, j'ai repensé à quelque chose que Carnot m'avait dit, on était à peine ensemble. En fait, il est médecin dans les sous-marins, donc dans l'armée. Et une fois, il prenait le train, on était assis sur le banc, là, sur le quai de la gare, et il me dit, tu sais, il faut que je te dise, il y a des stats qui sont sorties dans l'armée, les médecins et les sous-mariniers, ce sont les deux professions où il y a le plus de divorces et de séparations. Ok, donc je me suis dit, bon, est-ce qu'il me dit ça ? C'est pour me dissuader de m'engager avec lui. Mais comme je ne voulais pas trop, en fait, je le voulais vraiment, donc je n'ai pas trop attaqué le truc. Et voilà, je l'ai gardé pour moi, mais en fait, ça m'est quand même resté. Et après, plus tard, on en a reparlé. Et donc, on savait déjà qu'on partait quand même dans notre couple. Avec un peu ce danger qu'allait être l'émission d'Arnaud. Donc, comme sous-marinier, lui, il allait être amené à partir, donc 2 mois et demi, en mission de 2 mois et demi, pendant lesquels on n'allait pas du tout pouvoir communiquer. Donc, à partir du moment où on se disait au revoir à la maison, pendant 2 mois et demi, c'était vraiment plus le son de la voix, enfin, il n'y avait plus rien. Donc, franchement, pour un couple, surtout, que généralement ils sont jeunes dans ces cas-là, donc on est un jeune couple. Donc vraiment, pour être déséquilibré, c'est juste parfait. Donc on a vraiment, on s'est dit, ok, on sait qu'il y a ça qui nous arrive, qu'est-ce qu'on fait pour bien le gérer, pour que quand tu rentres de mission, et ben, je ne sois pas partie chez le voisin, et que toi, tu es d'avance avec d'autres. Non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, du coup, on pouvait vraiment en parler librement et se dire, on sait où sont les dangers, qu'est-ce qu'on fait justement pour pallier à ça. Donc, on a mis en place un peu toute une stratégie de communication sans pouvoir vraiment communiquer. Donc, on avait, on avait des boîtes qu'on s'échangeait chacun avant de partir. Tous les deux jours, on savait qu'à la même heure, on ouvrait quelque chose, on écoutait une musique, on s'écrivait tous les deux soirs un carnet qu'on échangeait au retour et qu'on relisait quand l'autre était parti, parce que du coup, l'émission était régulière. Donc, vraiment, on réussissait à ne pas couper le lien. Moi, je pouvais lui écrire 40 mots par semaine. Mais bon, qui était du coup pas très intime parce qu'on ne pouvait pas lire les mauvaises nouvelles, c'est que les bonnes nouvelles, c'est lu et relu. Donc voilà, ça reste un peu impersonnel, mais n'empêche que je peux quand même un peu lui raconter. Eux, ils peuvent rien du tout nous envoyer. Donc même, je veux dire, au bout d'un mois, on a presque cette angoisse de mort en se disant, enfin vraiment, il n'est plus là. Et en plus, s'il se passe quelque chose, on ne le sait pas. Donc bref, voilà, le contexte n'est pas facile. Mais avec vraiment ce qu'on avait mis en place, on a réussi vraiment à créer un lien assez fort, et on a du coup été bon dans, en tout cas avec le recul, je me dis, dans cette communication qu'on a mis en place très tôt, et cette conscience du couple. Ça a fait aussi qu'on a placé notre couple en priorité, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, mais parce que ce sera un des essentiels, et je dis parce que je sais qu'il y a des jeunes couples, et que nous, on s'était dit très tôt en disant notre couple, ce sera toujours une priorité pour nous. Donc, ça ne veut pas dire qu'on était dans un amour exclusif, un amour passionnel, où on faisait tout ensemble, et absolument pas. On avait vraiment nos vies, chacun de nos côtés, nos vies professionnelles, nos amis, nos loisirs. Mais il n'empêche que quand il y avait des choix à faire, c'était quand même notre couple qui passait en premier. Alors, on a pu vraiment passer pour des égoïstes. Par exemple, c'est quand Arnaud rentrait de mission. On faisait rapide, franchement, un apéro avec les enfants. Et moi, c'était au lit. Et c'était la soirée d'autrefois, c'était tous les deux. C'était hors de question que je commence à avoir les enfants autour. Enfin, ils allaient profiter de leur père le lendemain matin. Mais moi, et ça, je sais que quand je le disais, il y en avait pas mal qui étaient choqués. Mais c'était pas grave. Enfin, je l'assumais très bien. Et souvent, 10 jours après son retour, on partait que tous les deux. On laissait les enfants. On partait pas 3 semaines non plus. Mais voilà, chez leur grand-mère. Et on partait tous les deux. Donc, on a vraiment eu très tôt cette conscience du couple, et d'autant que on savait que notre couple revenait de loin, parce que nous, on s'est connus à 17 ans avec Arnaud, donc on est sortis ensemble, voilà, première boum et tout, super, pendant 6 mois, et puis au bout de 6 mois, il a rompu, il s'est dit, oulala, je pense que t'en veux trop, et moi je suis pas prêt. Et en fait, on a toujours gardé contact. On se disait qu'on était meilleurs potes, mais moi, je le savais bien. Je savais que c'était lui que je voulais. Enfin, au premier regard, vraiment, il y a un truc qui s'est passé. Je me suis dit, c'est lui. Donc, je me suis accrochée. On est restés potes. On se voyait régulièrement et tout ça. On a eu nos histoires chacun de nos côtés. Et puis, voyant que je voyais qu'il n'arrivait pas à se décider, moi, j'ai perdu mon père. Donc, je pense que j'ai vécu un peu une période avec un vide et une instabilité. En fait, j'ai rencontré quelqu'un. Et donc, sous la pression un peu de ma maman, que ça rassurait, on est parti dans des fiançailles et dans un mariage. Donc, voilà, je faisais la différence quand même. Mais bon, je me suis dit, en plus, lui, après, il ne vient pas, je ne vais pas non plus attendre toute ma vie. Je lui avais quand même demandé d'être témoin à ce mariage. Avec quand même, c'est l'inconscient, mais après, je relis, avec l'idée quand même qu'il me voit arriver dans cette église, dans ma robe, et qui se disent, mais zut, j'ai tout manqué, trop dommage, et limite, qui lève la main, ou juste avant de rentrer. C'est pas ça, hein, mais voilà, c'était, de toute façon, c'était en moi, c'était comme ça. Il se trouve que 6 mois avant, je l'ai revu, il m'a invité à son gala, son école militaire et tout, et là, franchement, ça l'a trop fait et tout. Et donc, j'annule mon mariage pour Arnaud. Mais il n'était pas prêt. Donc, quand je lui ai annoncé que j'avais annulé le mariage, et ben, fou, il a dit non, enfin, je suis pas sûre et tout. Donc là, je l'ai quand même pas très bien pris. Donc j'ai dit ok, Arnaud, c'est terminé. J'ai tout jeté, toutes nos lettres, tous nos souvenirs, tout. J'ai tout mis à la poubelle. J'ai dit je repars de zéro, je l'oublie. Donc un peu dépité quand même, je repars vers l'autre. Ouais, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Et je préfère raconter pour lui, sympa, au taquet, il dit ok, allez, c'est bon, on repart. On repart, se fiance, mariage, à nouveau. Mais là, il n'y avait pas d'Arnaud dans le... Il n'y avait pas d'Arnaud en tant que témoin. Et puis, un mois avant le mariage, Arnaud m'appelle. Ah, je dis, je réponds, parce que quand même, franchement, ça craint rien, vu ce qui s'est déjà passé, j'y vais. Et je réponds, et il m'avait toujours promis un week-end en bateau. Il me dit, là, écoute, si tu veux, on te marie, on le fait. Moi, j'ai dit, super. Moi, franchement, je pensais que, que c'était nickel. Mes amis m'ont dit, t'es folle, n'y va pas. Mais mon fils à l'époque m'a dit, vas-y, franchement, je te fais confiance. Alors, vas-y, je te fais confiance, pas de problème. Et donc, j'y vais, et là, finalement, on ne fait pas de bateau, parce que le bateau était cassé, on fait des trucs hyper simples. Mais là, ça match à fond. Ça match à fond. Il me dit, mais en fait, c'est toi et tout. Voilà. Je dis, oh là là, je me marie dans un mois, c'est quand même un peu chaud. Et puis, en fait, j'ai réussi à annuler le mariage. Une deuxième fois. Ouais, une deuxième fois. Et depuis, il va bien, l'autre. Il s'est marié, il a eu des enfants. Et je pense que d'ailleurs, je lui ai sauvé, j'ai sauvé notre union, puisque ça n'aurait pas marché de toute façon. Évidemment qu'on aurait cherché à se revoir. Évidemment, on y aurait eu adultère, c'est sûr. Donc, on a tout gagné, en fait. Mais... Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, on est un couple qui quand même, on est allé chercher loin. On sait qu'on a eu beaucoup de chance. On a été vraiment rattrapés juste avant qu'il soit un peu trop tard. Donc, ça fait vraiment partie de ce côté conscience du couple qu'on a. Donc là, je vous ramène dans ma voiture maintenant. Et donc, je me disais, ok, super ton histoire et tout, mais concrètement, qu'est-ce que tu as au quotidien un peu comme outil? Et nous, en fait, on avait la chance de voir tout le temps, de voir régulièrement le prêtre qui nous a mariés. Et à chaque fois, il était hyper doué en relation humaine. Et donc, on le voyait une à deux fois par an. À chaque fois, on y allait vraiment tranquille. Et il savait toujours, par ses questions, vraiment cibler là où ça faisait mal. Donc, il savait nous dérouter, il savait nous chambouler, il savait nous remettre en question. Donc, franchement, on arrive avec le sourire. Moi, je sais que je repartais tout le temps. Limite, je faisais la gueule, on s'engueulait et tout. C'était pas du tout... Mais il n'empêche qu'après, on comprenait et des questions qu'on ne s'était pas posées, des problèmes qu'on ne voyait pas, lui, il savait les soulever et certainement, il anticipait très bien ce qu'allait se passer plus tard. Donc, c'était une vraie chance. Et ça, on en parlait beaucoup à nos amis de ça. Et ils disaient, mais enfin, vraiment, c'est trop chouette. On aimerait trop comme ça avoir quelqu'un, un prêtre ou pas, mais en tout cas, qui nous suit et comme ça, qui nous bouscule. Et donc là, je pense à ça et je me dis, en fait, pourquoi nous, ce qu'on a la chance d'avoir, je ne le partagerai pas. Et alors là, dans ma tête, tout le concept de Cellule of Date a découlé. Les rendez-vous, les questions, le côté aussi travailler sur la forme avec le côté retrouvailles, séduction, ce que nous, on faisait beaucoup. Et là, je me suis dit, je suis arrivée à Nantes, je me suis dit, ok, en fait, je tiens quelque chose, j'ai l'idée, c'est bon, j'y vais. Donc, c'était vraiment l'envie de, vous voyez, de me dire, je veux croire... en l'amour qui dure, je veux croire qu'on peut vieillir tous les deux, je veux croire que c'est possible pour tout le monde, et je veux aller un peu à contre-courant de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on dit, l'amour dure 3 ans, l'amour dure 7, l'amour dure 10 ans, je dis non, je ne veux pas, je ne sais pas demain, je ne peux pas vous dire dans 10 ans, évidemment, mais en tout cas, je veux faire en sorte que ça soit rendu possible. Donc voilà, d'où vient, en fait, d'où est née l'idée. Et donc après, en fait, à l'époque, j'étais responsable juridique en clinique, donc rien à voir. Donc, autant vous dire que je partais de zéro. Je n'avais pas fait d'école de commerce, je n'avais pas fait d'école de com, ni de marketing, absolument rien du tout. Ça, c'est pour vous montrer, si certaines de vous ont des idées, c'est vraiment de ne pas s'en faire du tout une barrière. Donc, je pars de zéro, je continue évidemment mon travail à côté. Je parle de l'idée d'Arnaud qui est fan, il fallait que ce soit dans le projet sinon c'était pas la peine. Donc j'en parle à quelques couples d'amis qui disent ouais, enfin ça tient la route, trop sympa, vas-y. Je fais un peu de benchmarking mais à peine parce que en fait, je m'en fichais de savoir ce qui existait parce que moi j'avais mon idée, de toute façon j'irais. Donc ça m'intéressait pas trop. Je m'entoure un peu d'une petite équipe, une amie qui s'est chargée de mon site internet, de ma com, une administratrice, donc une petite équipe sympa. Et puis, je sors le carnet et je commence à écrire. Donc, je travaille sur mes thèmes, je travaille sur mes questions. J'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup. Pour le côté vraiment... moi, j'avais fait des études de droit et un peu d'études de psycho en parallèle. Mais bon, enfin, il n'empêche que j'étais pas... C'était quand même pas... Je pratiquais pas ça au quotidien. Donc, c'est pour ça que je voulais faire quelque chose qui tenait la route. Et par chance, en fait, et c'est là qu'on dit que tout s'aligne, Arnaud, à l'époque, on était à Cherbourg, et il était médecin-chef à l'infirmerie militaire, et il y a des psychologues aussi dans l'armée. Et donc, il me dit, écoute, je vais inviter la psy à dîner, elle est trop sympa, ça va trop marcher toutes les deux. Et pas du tout avec l'idée qu'on travaille ensemble. Et en fait, ils sont venus dîner, et je lui ai parlé de ce que je faisais. Elle m'a dit, mais c'est trop bien. Vas-y, je veux t'aider. Montre-moi ce que tu fais, tes questions. Et donc, et aujourd'hui, c'est Marie-Lise avec qui j'anime le podcast et avec qui on a écrit le bouquin Les 5 clés de l'amour durable. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment parti de rien. Et aujourd'hui, c'est vraiment une belle histoire. Donc, j'avais en fait je ne veux pas dire caution, ce n'était pas l'idée, mais en tout cas, cet éclairage de la psychologue qui m'aidait. En fait, moi, je préparais toutes les questions, tout le chapitre, tout le rendez-vous, et après, on relisait, elle me disait, ça pose là comme ça. Je faisais beaucoup, par exemple, de questions fermées. Elle me disait non, parce que là, s'il y a juste non ou oui à répondre, ça ne va pas aider dans la communication. Donc, pose-la différemment pour obliger l'homme et la femme à vraiment se livrer et davantage parler. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Donc, ça, c'était une des belles rencontres. J'ai beaucoup écouté aussi, alors ça davantage pour le côté marketing, communication, business, de podcast. À l'époque, il y avait le podcast Génération XX qui était vraiment canon. J'ai écouté beaucoup Pauline Léniaud, Le Gradin, chez qui je suis passée après d'ailleurs. Donc il y a enfin, vraiment des jolies histoires. Et donc il y avait des femmes qui m'avaient pas mal inspirée, comme qui étaient parties de rien, comme Morgane de Cézanne. Il y avait Perrine, des confettis, pareil, qui était partie de rien et avec qui j'ai travaillé après sur le graphisme des carnets. Il y avait Juliette, café au My Cream, donc elle avait déjà un bagage, mais il n'empêche que voilà, elle s'était lancée toute seule, elle le racontait très bien. Donc voilà, je me suis pas mal inspirée pour me dire, en fait, c'est possible. Parce que autant j'avais vraiment foi dans mon idée, dans mon concept, j'étais sûre de mon coup, autant tout ce côté com et tout, ça me manquait. Donc voilà, il a fallu là-dessus que je me rassure pas mal. Donc on arrive, je m'étais mis une deadline, j'avais mis le 17 juin parce que c'était la date de notre premier baiser, donc hyper symbolique. Ça c'était un conseil que j'avais entendu de Pauline Léniaud qui avait dit qu'il faut absolument se mettre une deadline quand on se lance pour être sûr, même abouti ou pas abouti, mais pour avoir une date à laquelle on lance son produit. Donc, j'avais mis celle-ci et j'ai commencé en décembre. J'ai lancé mes réseaux sociaux le 14 février de cette année-là. Donc, je partais de zéro. Moi, je n'avais pas d'Insta perso, je n'avais pas de Facebook, je n'avais rien. Donc, quand je vous le raconte, je me dis, mais c'était comment j'ai fait je ne sais pas, vous trouvez mon téléphone à me dire, j'ai zéro follower. Mais voilà, zéro, donc ça va faire 5 ans. J'ai écrit, s'est posé la question de l'impression, du nombre d'exemplaires, parce que j'avais aucun, en fait, je m'auto-finançais, j'ai pas voulu d'éditeur exprès, je voulais vraiment gérer de A à Z, donc j'ai pas pris d'éditeur. J'ai lancé un nombre d'impressions pour les premiers carnets, qui étaient les carnets poussés, en fonction du prix, du coup de revient un peu. Donc j'en ai lancé 1000. Je me souviens très bien d'un ami qui m'avait dit, qui bossait en politique, et il m'avait dit, tu sais, Soise, un homme politique qui aujourd'hui sort un bouquin, il est un peu connu, il n'en vend pas plus de 1000. Ok, je me suis dit, merci JB, tu crois bien en moi. Donc, j'ai dit, de toute façon, ça ne se périme pas. Donc, même si je mets 5 ans à les vendre, tant pis. Et puis, on avait décidé avec Arnaud que voilà, cet argent qu'on mettait dedans, eh ben, tant pis, c'était de nos économies, on s'en priverait s'il fallait. Mais voilà. Donc, j'ai lancé les 1000. Donc, 17 juin. J'ai sorti les carnets et là je m'attendais, je ne vous le cache pas, un peu à une Morgane des Alories qui lançait ses ventes le dimanche à 9h30, ce que j'ai fait, et que ça soit vite hors stock, enfin sold out. Et non, non, c'était pas ça. Mais bon, en fait, quand on entend des parcours comme ça, évidemment, on s'identifie. Donc, on se dit, finalement, pourquoi pas moi? Bon, ça l'a pas fait. N'empêche que j'ai quand même vendu que par le réseau au départ. Et puis, en fait, le bouche à oreille a très bien marché. Donc ça, c'était en juin. Et le petit chose qui est devenu un peu compliqué, c'est qu'en en fait, on a été muté à Tahiti. Et donc, départ à Tahiti en juillet. Alors moi, je suis partie en décalé. On a quand même fait ça. Arnaud est parti avant avec 2 enfants. Je suis partie après avec 2 autres pour vraiment assurer la com au moins tout le mois de juillet. J'ai eu de la bonne presse dès le départ. Donc ça a bien aidé. Et puis c'était le jeu, je le savais qu'on partait, donc je suis partie, et après voilà, j'ai géré à distance, je suis revenue quelques fois, bon, je je ne vous raconte pas tous les détails, parfois on est décalé de 12 heures en fait. Donc je travaillais pas mal la nuit pour faire répondre éventuellement aux podcasts, aux interviews, hein, que j'arrivais à décrocher, parce que franchement c'était pas simple, surtout quand vous dites que vous habitez à Tahiti. Bah, tous les gens, ils ont tout de suite, ils s'imaginent que c'est hyper simple, hyper cool, et qu'est-ce qu'elle va venir nous dire. Alors, évidemment, c'est facile, son couple à Tahiti, qu'est-ce qu'elle va venir nous apprendre à nous. Donc il a fallu un peu lutter contre ça. Mais voilà, du coup, ça fait, les premiers, ça fait 5 ans, ce sur quoi je voulais rebondir après, vous avoir montré un peu le contexte où c'était venu, et puis l'histoire de comment je m'étais lancée, c'est un peu le, parce que c'est une question qu'on me pose pas mal, c'est un peu l'impact du coup que Save Your Love Date a eu à la fois sur moi, sur notre couple et sur notre famille, parce que c'est vrai que ça a quand même, il y a eu quand même des retentissements. Niveau personnel, donc moi j'ai du coup changé vraiment de cap, ça n'a pas du tout été un problème puisque ça vous l'avez entendu mille fois, le fait de dire que quand on monte sa boîte et quand on aime, on n'a pas l'impression de travailler, et c'était très vrai, donc du coup ça a été assez simple. Ce sur quoi on m'interrogeait pas mal, c'était évidemment le syndrome de l'imposteur. Alors là, pour le coup, moi franchement, je ne l'ai jamais eu. Mais des fois, enfin, t'as l'impression qu'il faut absolument l'avoir eu, sinon t'es pas honnête. Mais vraiment, non. Parce que j'ai aussi, dès le départ, j'ai su où me placer. J'étais pas thérapeute, j'étais pas conseillère conjugale. Moi, j'ai pas cette formation, j'ai pas ces compétences. Et moi, j'ai voulu me placer tout de suite dans le bien-être amoureux. Et c'est encore vraiment ce sur quoi je communique aujourd'hui, c'est de se dire que, enfin, moi je dis, je suis pour les couples qui vont bien. Un couple vraiment qui va pas bien, qui est en difficulté, tout de suite je lui dis, je suis désolée, n'achetez même pas les carnets, allez voir, il y a des professionnels pour ça. Et donc, ça m'a vraiment aidée parce que du coup, il n'y a pas d'études en bien-être amoureux. Il y a ce que toi, tu vis, il y a ce que tu observes aussi autour de toi. Donc, ce qui fait que ça m'a jamais mise à défaut et vraiment. Quand je sortais la réalité du chapeau, quand il fallait, c'était pousser un peu plus loin et dire, ne vous inquiétez pas, je travaille quand même avec des psychologues, donc c'est cadré. Ce que je fais, ce n'est pas non plus n'importe quoi, c'est cadré, c'est, on sait où on va. Le couple, je ne l'emmène pas droit dans le mur quand il commence à faire les rendez-vous, pas du tout. Donc voilà, pour le syndrome de l'imposteur, c'est vrai que je m'en suis libérée assez vite. Après, c'est vrai que le fait comme ça de venir un peu, il y avait un côté peut-être parfois un peu donneur de leçons et un peu autoritaire. Et là-dessus, c'est là-dessus qu'il fallait faire attention, justement pour pas trop avoir cette image. Mais c'est vrai que quand je dis, quand je fais des publis ou quand je fais des toutes petites vidéos, j'aime bien être assez, même dans des articles de presse, être assez direct dans ce que je dis, en fait, pour que ça marque. Là, par exemple, vous voyez, il vient d'avoir un article dans le Madame Figaro. Et quand j'ai parlé avec la journaliste, je lui ai dit qu'un des dangers du couple, c'était les enfants. Et évidemment, elle a repris ça. Et donc, moi, ça me va. Mais après, c'est vrai que quand je lis l'article, je me dis, waouh, quand même, je vais me faire des ennemis là en disant ça. Mais en fait, je l'assume très bien parce qu'en plus, je le pense. Donc, on a 4 enfants. Donc, en plus, je peux vraiment l'argumenter. Et, mais voilà, et c'est un peu cette... parfois, c'est avec ça qu'il faut un peu jongler. Donc voilà, ça, c'était un peu l'impact sur ma vie plus personnelle. L'impact sur notre couple, alors évidemment, ça a joué. Au départ, ce qui n'a pas été facile, c'était que notre couple, c'était notre fonds de commerce. Donc moi, sur Insta, j'avais qui pour communiquer? J'avais nous deux. Et Arnaud, c'était pas trop son truc d'être... alors non seulement parce qu'il est militaire, et puis parce qu'en plus, voilà, c'était pas quelque chose qui l'attirait, d'être mis en avant sur les réseaux sociaux. Mais je n'avais pas le choix, je n'avais que nous deux. Donc, et puis je ne voulais pas du tout faire de publi avec prenant des photos sur Google ou voilà, sur Internet, et pas du tout. Donc, ça a été sujet de quelques discussions entre nous, parfois de quelques disputes. Ce qui n'était pas facile aussi, c'était le regard des autres, de nos proches. Alors, moi, j'avais rarement des remarques. Lui, davantage, un peu ses potes qui, évidemment, se moquaient. « Ah tiens, on t'a vu sur la dernière publi, machin, des choses comme ça. » Et ça, c'est vrai que... Bon, enfin, ça passait pas trop. Donc, ça mettait un peu de tension, mais je lui disais « Écoute, j'ai pas le choix, en fait, si c'est pas nous deux. Enfin, comment je fais? C'est notre histoire, c'est nous, ça vient de là. » Donc, bon, on discutait et ça finissait, ça finissait toujours bien. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça peut être une discussion qu'on a, on fait vraiment gaffe à ça. Ce que j'ai fait après, du coup, c'est que j'ai shooté des couples. Mais alors, c'était toujours, en fait, on lance vraiment un casting et je veux que ce soit des couples qui adhèrent au concept. Je vais être là pendant le shooting, comme ça, on les rencontre, on échange et tout ça. Et parce qu'après, il faut que les photos, moi, m'inspirent et donc, il faut que je sache qui est derrière la photo. Donc ça, c'est vrai que ça a permis qu'on se mette beaucoup moins en avant. Et ça, ça a bien aidé, même si moi, j'aime bien le faire. Bon, je fais quand même attention. Donc ça, c'est un premier impact sur notre couple que j'avais visualisé. Le deuxième, alors c'est plus personnel, ça touche le couple, mais c'est plus moi, c'est que quand même, dans notre vie de couple, eh bien, quand ça ne va pas bien, quand on se dispute, moi je me dis, ben, attends, soit il y a 2 jours, tu as fait 7 publis sur ce thème, et là tu fais juste l'inverse de ce que tu as dit à tout le monde, donc ça ne va pas. Donc, en fait, je me raisonne, et quelque chose que je ne ferais pas naturellement, je me dis vraiment, je n'ai pas le choix. Alors, parfois, peut-être que du coup, ça nous fait manquer un peu de, je ne dirais pas de liberté, mais ça met quand même une petite pression, ça c'est sûr, qui est plutôt positive, puisqu'elle m'oblige à aller de l'avant, à faire mieux que ce que j'aurais fait. Mais bon, ce n'est pas toujours simple à gérer. Et puis, il y a aussi cette image qu'on peut donner du couple parfait, bien évidemment. Et ça, on me l'a déjà dit. Enfin, les amis m'ont déjà dit en disant « tu devrais faire gaffe parce que franchement, on a l'impression que vous êtes le couple idéal, c'est tout nickel, tout va bien, tout rose. » Mais en fait, moi, j'ai pris le parti de communiquer sur le positif. Je veux un couple qui soit que positif. Moi, franchement, les nanas qui passent leur temps à se plaindre alors que, et elles semblent quand même nous vendre une vie de rêve, je trouve ça insupportable. Donc, je veux vendre du positif, je ne veux pas mentir, évidemment, on n'est pas de doigt du divorce, on est un couple qui va bien, on s'entend bien, on communique bien. Quand je fais des stories, quand on part en week-end, quand on fait une soirée ici, je ne mens pas, on la fait vraiment, on vit les choses, mais évidemment, quand on se dispute, je ne vais pas venir le raconter, parce que j'estime que c'est notre intimité, et que je vais faire des publis sur le pardon, je vais faire des publis sur les sujets de Discord, mais je ne vais pas venir nous afficher, sur ce sujet-là qui nous est propre. Donc, voilà, il y a cette image qu'on peut avoir du couple parfait, même enfin, dans nos familles, dans nos... Bon, maintenant, ça passe un peu parce qu'ils ont bien compris, mais qu'il y avait une nécessité de communication. Mais après, on reste quand même vrai dans le message qu'on veut faire passer. Et puis, notre impact, j'y ai pensé tout à l'heure dans le train, en retravaillant le talk. Je me suis souvenue, c'était, alors là, c'est plus sur les enfants. Parce que c'est vrai que quand c'est sorti au début, Sild, du coup, on en parlait beaucoup avec nos potes, dans les dîners et tout, puis parfois les enfants entendaient. Et ce qu'on aimait bien dire, c'est ce qu'on envoyait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était que notre couple, on n'hésitait pas à le faire passer en premier et avant nos enfants. Donc, on parlait de ça, ça fait évidemment toujours du débat, donc trop intéressant. Mais en fait, nos enfants, ils nous entendaient dire ça, et puis, régulièrement. Et donc, un jour, les deux aînés, ils nous ont dit quand même, enfin, nous, ça nous embête un peu, vous êtes toujours en train de dire qu'on passe après, mais vraiment, on est qui pour vous et tout. Donc là, quand même, prise de conscience. Et j'avais pas du tout mesuré qu'eux, ils l'entendaient comme ça. Surtout que, enfin, vraiment, dans leur vie quotidienne, ils n'empathisent pas. On n'est pas des mauvais parents. Enfin, je veux dire, on est présent, on est là. Mais voilà, il y a des moments, c'est vrai qu'on sait partir à deux, on sait même pas faire des vacances avec eux, il y a des choses comme ça. Mais bon, ils sont pas malheureux, ils sont pas restés à la maison tout seuls. Voilà, on fait en sorte qu'ils soient bien aussi. Mais il n'empêche que ils nous ont dit ça. Donc évidemment, on a discuté avec eux, on leur a expliqué les choses, et après, on a fait bien plus attention quand ils étaient là. À ce qu'on pouvait dire comme ça et qui pouvait les blesser. Mais ça, c'est bon parce que j'y avais pas pensé, c'est tout à l'heure, en travaillant, je me suis dit, ah ouais, ça quand même, c'était assez marquant. Donc voilà, pour le côté un peu impact sur nos vies, je trouvais sympa aussi, et Barry l'a dit tout à l'heure, c'était un peu de partager avec vous un peu nos essentiels. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on me demande souvent où est-ce que je trouve mon inspiration, parce que c'est du Love Date aujourd'hui, c'est donc 3 carnets. Il y a les carnets s'engager dans une vie à deux, donc pour les jeunes amoureux qui veulent poser des bases solides. Et ça, c'est vraiment, c'est pas le premier que j'ai fait, j'avais fait des poussées parce que c'était ce qu'on vivait. Et après, je me suis dit, en fait, les couples, il faut aller les chercher dès le départ, parce que c'est tellement facile de faire un choix qui n'est pas le bon. Et après, franchement, pour... avec le temps qui passe, avec les difficultés. Si le choix n'était pas le bon et pas bien éclairé au départ, franchement, c'est chaud de s'en sortir. Donc, je me suis dit, je vais aller choper des couples à la construction pour leur dire, attention, franchement, interrogez-vous déjà, prenez le temps de vous connaître vous-même, de connaître l'autre, et la liberté de pouvoir vous dire, en fait, c'est pas toi, c'est pas moi. Mais donnez-vous les moyens de pouvoir vous dire, parce que sinon, en fait, personne ne va vous aider. Si déjà, vous ne vous mariez pas, ben, vous n'aurez, il n'y aura pas de procédure qui vous aideront. Si vous mariez à la mairie, franchement, il n'y aura rien du tout. L'église, si vous êtes dans une bonne paroisse, ça peut le faire, mais sinon, non. Donc, il faut que vous ayez quelque chose pour vous interroger. Donc, les s'engager, ils sont là pour ça. Dans l'ordre du couple, après, j'ai fait les 7 du baby date. Donc là, c'est pour les futurs et les jeunes parents. Il n'y a que 3 rendez-vous parce que c'est une période qui est plus chaude. Mais là, c'était vraiment pour se dire, on sait qu'il y a beaucoup de séparation à l'arrivée du deuxième enfant. Et parce que c'est souvent un énorme manque de communication quand même, de manque de présence de l'un et l'autre dans le couple. Et donc, le sous-titre, c'est celle du baby date, 3 rendez-vous pour préserver votre couple. Vous voyez, ça revient tout le temps, en fait, dans ce que je veux porter comme message. Et donc là, c'est 3 rendez-vous. Il y en a un à faire avant la naissance, et un deuxième aux 2-3 mois du bébé, un dernier aux 9-12 mois du bébé. Et puis, les derniers, qui sont les premiers sortis, c'est 12 rendez-vous pour booster votre couple. Donc là, c'est pour les couples, nous, on avait 40 ans quand on a lancé ça. Donc, c'est les couples qui sont ensemble depuis plusieurs années et qui veulent, qui vont bien, mais qui se disent, OK, on va passer du temps à deux, on va prendre le temps de se retrouver, de se redécouvrir. C'est quand même hyper fort. Comme nous, on ces rendez-vous-là, on les a vécus, on s'était dit, une fois qu'on sera posé à Tahiti, qu'on sera détaché un peu de tout, on va se lancer dans l'aventure, on va vivre nos rendez-vous. Et donc, on a fait vraiment tous les mois le rendez-vous et tout. Et franchement, on communiquait bien, on a calé bien. Il n'y a pas un rendez-vous, on ne s'est pas dit. Incroyable. Comment ça, c'est que ça, tu ne me l'as jamais dit. Comment j'ai pu passer à côté. Ou, ah oui, tu penses ça. Ou tu me vois comme ça. Parce qu'à chaque fois, il y a les questions en miroir. Ça nous a toujours fait un effet incroyable. Et je pense que c'est pour ça que, en fait, quand je communique dessus, quand j'en parle, j'allais dire j'en parle si bien, c'est un peu prétentieux, mais on sent que, je sais pas parce qu'on me l'a dit, parce qu'on les a vécus et je sais que l'effet que ça fait. C'est pour ça que je suis parfois autant persuasive quand j'en parle, parce que je dis, mais ne passez pas à côté. On avait fait un clip pour Sid où celui qui montait m'avait laissé parler toute seule, m'avait dit, si tu as quelqu'un devant toi, comment tu lui parles de Sid? Et la dernière phrase, c'était « Si Sid est passé dans vos vies, dites-vous que ce n'est pas pour rien. » Mais vraiment, je l'ai toujours pensé, parce que je trouve que ces rendez-vous-là où on s'interroge, où on se redit des choses, où on ouvre son cœur à l'autre, et ça devrait être obligatoire, je trouve, franchement. Mais vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, les 3 carnets aujourd'hui, il y a 2 livres. Et ça, c'est chouette, je me suis auto-éditée pour les carnets, mais on avait envie avec Marie-Lise d'écrire un livre sur les 5 clés de l'amour durable. Et donc ça, on l'a écrit toutes les deux, et pour le coup, voilà, on préférait avoir un éditeur. Donc ça, c'était chouette, on a eu Erol, c'était une belle aventure. Et puis après, j'ai eu Alba Michel qui est venue vers moi pour me racheter les carnets. Et les prendre à leur compte, en fait. Donc, on n'en était pas loin et je me suis dit, non, je pense que le calcul n'est pas bon. Ils ne vont pas savoir. En fait, moi, les carnets à la FNAC, ça ne sert à rien parce que les gens, s'ils ne connaissent pas, ils n'achètent pas. Donc, je me suis dit, la com, ils ne vont pas la faire. Ce n'est pas une bonne idée. Arnaud m'a dit, tu as quand même Albin Michel avec toi. Ça serait bien de ne pas les lâcher comme ça. Je dis, attends, bouge pas, je vais trouver quelque chose. Et là, j'ai fait le Viens, on s'aime. Donc, toujours des rendez-vous, parce que moi, c'est vraiment mon truc, que le couple soit vraiment acteur et pas juste lecteur. Et donc, voilà, j'ai fait le Viens, on s'aime, 12 rendez-vous, des quiz, il est trop sympa aussi. Et plus, on va moins dans le détail que celle du Love Date, mais déjà, on prend ses habitudes de se retrouver, de parler de son couple, de parler de soi. C'est les deux sujets dont on ne parle pas dans le quotidien. Et puis, il y a un podcast qu'on a sorti qui s'appelle Au cœur du couple, qu'on a sorti il y a bientôt 2 ans avec Marie-Lise, avec aujourd'hui 55 épisodes. Et là, le concept, c'est que, parce qu'il y avait le côté un peu frustrant aussi pour moi de ne pas avoir le contact direct avec les couples. Donc, par Insta, je discute, je ne sais plus qui j'ai vu tout à l'heure, mais on avait parlé ensemble pour les carnets et tout. Ouais. Et donc, voilà, j'essaye de toujours répondre, d'être là. Mais n'empêche que c'est quand même pas une rencontre comme quand on reçoit quelqu'un en consultation. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ça serait sympa d'avoir un podcast où la personne nous appelle, elle a un problème dans son couple, et puis on en parle ensemble. Donc, Marie-Lise était partante. Et comme moi, je n'ai pas cette compétence hein, pour parler comme ça, en mode un peu plus, du coup, thérapie. Ceci dit, on sélectionne quand même les problématiques. On ne veut pas aller, que ça soit trop compliqué, on ne veut pas aller trop loin. Moi, je fais la partie interview au départ. Et après, Marie-Lise, elle fait un monologue où elle parle avec la personne, mais elle n'interagit pas du tout, justement, pour ne pas rentrer dans quelque chose de trop personnel. Et puis, on veut aussi que ça parle à tout le monde, que chaque question qu'on a, on veut la traiter sous un angle, voilà, n'importe qui l'écoute, n'importe quel couple, ça va l'interroger au moins sur un point. C'est vraiment l'idée. Et donc, c'est un podcast qui marche bien. Parfois, on a des invités, voilà, des invités vraiment sympas. On va bientôt avoir une jeune femme qui est passée au Curiosity Club deux fois, Philippine Delair, et une humoriste. Et voilà, je l'ai rencontrée ce midi, et donc ça va être sympa. Donc ça, c'est chouette aussi, le podcast, ça ouvre à ça. Donc voilà ce qui est cible d'aujourd'hui et mon inspiration, évidemment, l'inspiration première, c'est quand même notre couple. C'est aussi les couples dans nos proches et les couples que j'observe. Vous voyez, par exemple, ça me fait trop rire parce que je regarde les couples là, qui dînent ensemble et on vient de sortir notamment avec Marie, là. On s'est dit, il y a un truc à faire. On avait pensé d'abord à des sous-tables et en fait, on les a transformées en cartes postales. Donc, on a édité une carte postale hyper jolie. Avec derrière des questions. Donc l'idée, c'est que ça va être dans les restos un peu sympas ou hôtels, typiquement ici. Et en fait, ce sera offert aux couples qui viendront pour leur faire poser leur téléphone et le faire discuter. On a fait des questions quand même assez légères, on n'est pas allé, mais avec quand même, moi, il me faut toujours de l'intensité. Je veux que le couple, ça quand même, ça le bouscule, ça l'interroge. Donc voilà, je pense il y a peut-être 8 questions, à peu près 8-10 questions, mais voilà, et ça c'est typiquement, voilà, c'est en voyant les gens autour, je me suis dit, comment je peux faire, leur balancer des carnets, non, ce serait pas, mais voilà, cette petite carte postale, bam, ça c'est la dernière chose qu'on vient de mettre en place, et puis, évidemment, comme je vous le disais, c'est quand même notre couple en premier qui m'inspire le plus, et j'avais juste envie de partager avec vous trois essentiels, je pense qu'on a mis en place et qui font qu'on marche bien, que ça fonctionne. Le premier, ça je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment de faire de son couple une priorité. Et ça, ça se traduit par le fait de passer du temps à deux. De, en fait, voir son couple comme un tiers, comme quelqu'un à qui on a donné naissance le jour où on a décidé de faire route ensemble. Et que ce tiers-là, eh ben, au même titre par exemple que nos enfants, il faut s'en occuper. Ça veut dire qu'il faut l'écouter, ça veut dire qu'il faut le nourrir, ça veut dire qu'il faut, il faut de la tendresse. Vraiment se dire, il y a toi, il y a moi, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, mais il y a aussi notre couple. Donc, le dimanche soir, on planifie la semaine, on planifie le week-end. À quel moment, en fait, on se retrouve tous les deux? Quel moment on va vivre cette semaine pour nous deux? Ce week-end, on a des choses prévues, mais attends, stop, on en a trop. Quand est-ce qu'on se prend même une heure, deux heures, et ce sera notre moment à nous deux? Et ça, c'est vraiment comme ça qu'on vit le fait. Évidemment, qu'en termes de temps, dans la semaine, on passe certainement plus de temps au travail, peut-être plus avec les enfants que finalement tous les deux. Mais c'est très rapide. Enfin, on est vite pris dans le flow, mais vous le savez certainement, pour en fait nous passer très peu de temps à deux. Donc, par exemple, il y a un conseil que j'aime bien donner, c'est le fait que tous les soirs, vous êtes obligés de manger. Donc, à un moment, vous êtes obligé de vous retrouver. Vous savez qu'on a 4 enfants, donc manger avec nos enfants, autant vous dire qu'on ne se parle absolument pas. Donc, on les fait manger avant, on est avec eux, soit l'un, soit l'autre, soit nous deux. Donc, on parle, on les sert, voilà, on vit vraiment le moment avec eux. Et puis après, ils vont dans leur chambre, ils vont se coucher, et nous, c'est notre tour. Donc, on sort notre petit verre, on prend notre dîner. Mais ça veut dire qu'en fait, quasiment, enfin, tous les soirs, non, parce qu'on a des rythmes, on n'est pas là tous les soirs, mais en tout cas, quand on est à la maison, on est obligé. C'est moche hein, de dire ça, quelque part, obligé. Mais en fait, ça marche. Et c'est une amie qui me disait l'autre jour, on discutait, puis Arnaud rentrait, j'ai dit, attends, j'ai de ça à te raconter. Elle me dit, mais comment tu as des choses à te dire tous les soirs? Et je dis, tu sais, en fait, Marc, c'est un cercle vertueux. C'est que plus tu passes du temps avec l'autre, plus tu discutes, plus tu sais ce qu'il vit, ben plus tu vas pouvoir en fait en parler, lui poser des questions. Quand tu sais, quand la veille, tu t'es raconté, on se dit toujours, c'est quoi ta journée le lendemain? Et en fait, déjà dans la journée, tu peux être présent en mettant le petit texto, la petite attention, la petite pensée. Et le soir, tu peux lui demander, tu peux dire alors ce rendez-vous, alors ça, comment ça s'est passé et tout. Et c'est hyper important. En fait, c'est de garder le lien vraiment au quotidien, de rester connectés l'un à l'autre. Et le problème clairement des couples aujourd'hui, c'est pas un manque d'amour en fait, hein, c'est juste une déconnexion l'un de l'autre. Et à un moment, bah, en fait, on s'est un peu perdu, quoi. On sait plus. Donc du coup, quand l'autre a besoin, bah, on n'est plus forcément à l'écoute, on n'est plus forcément au rendez-vous. Et puis bah, voilà, en fait, ça s'enchaîne. Et donc c'est vraiment avoir conscience de maintenir ce lien quotidien par des petites choses qu'on met en place et qui font qu'on va rester connecté l'un à l'autre. Donc ça, c'était le premier essentiel. Le deuxième, c'est faire équipe. Ça, c'est... En fait, je voulais le dire, mais je m'as dit, si je vous donne ces essentiels, c'est pas du tout pour faire la fille, bah oui, elle évidemment, elle sait ce qu'il faut faire, elle maîtrise mieux tout le monde, et pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est que en rentrant ce soir, pour celles qui pourront, qu'elles se disent avec leur homme, eh ben, nous, c'est quoi nos essentiels? Elle a parlé de ça, qu'est-ce que tu en penses pour nous? Et nous, qu'est-ce qu'on met vraiment? Donc, c'est vraiment dans l'idée, vous voyez, c'est pas de donner le son, c'est de pouvoir vous inspirer après dans votre couple, ou si vous n'êtes pas encore en couple, c'est de le retenir et de vous dire, bah ouais, je me souviens que, voilà, qu'à ce talk, il y avait une nana qui avait dit ça, effectivement, je l'ai gardé, voilà, je m'en souviens et c'était pas bête, effectivement, et je l'en fais. Donc, c'est vraiment dans cette idée. Bref, c'était la petite parenthèse. Donc, le deuxième, c'est faire équipe. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en début de couple, de faire les choses ensemble et l'un avec l'autre. Et en fait, on voit qu'avec le temps, on a plutôt tendance à les faire l'un contre l'autre. Et ça, évidemment, c'est pas très bon pour l'ambiance du couple. Donc, cheminer avec cette idée, on est une équipe. Ça veut dire que, en fait, chaque projet qu'on met en place, hein, mais même des petits projets, rien que l'organisation de la semaine, c'est de se dire, voilà, ok, on va faire équipe, donc c'est un peu de se partager les tâches. C'est quand c'est des projets un peu plus importants, comme par exemple, je sais pas, la rénovation d'une maison, la construction d'une maison, c'est de se dire, ok, toi, en fait, c'est la déco que tu préfères, donc je te laisse là-dessus. Toi, tu vas plus gérer le contact avec les entrepreneurs, choses comme ça. En fait, ça paraît bête, mais quand c'est dit, c'est pas du tout vécu de la même façon. Et surtout, ça veut dire que il y a une notion de confiance qui s'installe dans le faire équipe. Évidemment, il faut accepter de ne pas être dans le contrôle de l'autre. Il faut accepter de ne pas être dans la critique non plus. Donc, ça vraiment... Et puis, c'est faire équipe, c'est source d'une énergie de dingue. Déjà, on s'économise soi-même parce qu'on est deux. Combien de femmes on entend qui sont épuisées par la charge mentale, par les travaux de la maison, par les enfants et tout ça. On en entend plein aujourd'hui. Mais à quel moment ils se sont posés dans le couple pour se dire, ok, en fait, toi... Comment tu peux intervenir dans la semaine, qu'est-ce que tu peux gérer. Et ça, parce qu'il y a des choses qui sont mises naturellement en place, parce qu'on a estimé qu'il y en avait un des deux qui devait travailler plus, donc c'était un mal qui rentre plus tard, donc c'était un mal qui ne s'occupe pas des enfants, c'était un mal qui ne passe pas le ménage, qui ne passe pas les courses, etc. Mais en fait, c'est nul. C'est nul. Il faut savoir se poser à deux. Non, mais se donner les moyens, en fait. C'est un moment de se dire, qu'est-ce qu'on change dans nos habitudes, dans notre quotidien, pour que ce soit plus équilibré. Et moi, aujourd'hui, j'ai besoin de toi. En fait, ça ne me convient pas. Donc vraiment, de réussir à avoir ces conversations-là. Et si vous le tournez dans le mode « on va faire équipe pour ça », tout de suite, ça n'a rien à voir. C'est, vous êtes un duo. Et ce qui est très bon aussi dans ce concept un peu du faire équipe, c'est de se féliciter. Et du coup, quand on a fini un projet, par exemple, je sais que pour les vacances, donc on organise les vacances à deux, donc il y a celui qui va gérer la loc, celui qui va gérer les valises, qui va gérer de faire le drive au moment où on arrive, à quel moment on voit les potes, tout ça. Donc on a chacun nos missions, et c'est ça qu'on dit souvent quand on repart en voiture, le retour, se dire bah franchement canon, on a réussi nos vacances, on s'en est bien sorti, on s'est bien organisé, il y a eu un bon fit, et on se le dit vraiment. Bravo. Donc ça, c'est un exemple sur les vacances, mais il y a plein de fois où, sur des petits projets, eh ben, franchement, on ouvre la bouteille, on prend notre soirée et on se le dit, on dit, ben, on va le faire pour ça. Et c'est hyper important parce que vous valorisez du coup votre couple et ça fait vraiment un bien fou. Donc là, le deuxième. Et le troisième, c'était être acteur. Être acteur de son couple. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a personne mieux que nous qui connaissent notre couple, on sera vraiment les mieux placés pour faire bien. Bien sûr, quand ça ne va pas, on peut se faire aider, mais en tout cas, pour les bases, pour les fondamentaux, pour quand on est un jeune couple, c'est de se dire, il n'y a que nous qui pouvons nous bouger pour notre couple. Et ça, c'est pareil, d'avoir ça en tête, ça incite vraiment à être acteur, à être moteur. Je lisais tout à l'heure un article sur le... Ils ont fait un article à l'occasion de la journée sans téléphone portable. Et donc, ils interrogeaient un psychiatre sur l'impact du téléphone sur les couples. Et il disait, c'est tellement plus simple, par exemple, quand vous arrivez dans votre lit, de prendre le portable, de scroller, l'autre à côté, d'être tous les deux comme ça. Et en fait, c'est plus facile que de se dire, je vais essayer de l'approcher un peu pour voir si ce soir, ça peut le faire. Parce que ça reste des choses qui demandent un peu de... Enfin, au début, ok, hein, on y va, mais après, avec le temps, quand même, la sexualité, voilà, il faut la travailler. C'est vraiment, il faut la travailler. Et quand elle est grande, c'est franchement d'être là à se parler, c'est beaucoup plus simple que de se dire, voilà, ça va peut-être, on va se coucher plus tard. Enfin, je ne peux pas tout tourner. Voilà, il expliquait que c'était la facilité. Et je me suis dit, mais enfin, ça fait tellement écho avec ce que j'essaye de dire en disant que le couple, l'amour, c'est un travail. Que même des fois, nous, hein, on avait programmé une soirée sex love date. Les soirées sex love date, il faut les préparer un peu avant. Franchement, parfois, flemme. Mais il faut se mettre ce coup de pied, on n'est jamais déçu, mais voilà, c'est un choix qu'on fait aussi. Est-ce qu'on s'occupe de notre couple? Est-ce qu'on lui donne du temps? Est-ce qu'on va en faire un truc vraiment cool, qui va durer longtemps? Ou bah, est-ce que finalement, c'est là, ça fait partie de ma vie aujourd'hui, puis finalement, demain, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, c'est phrases peuvent vous inspirer. Quand vous allez rentrer pour avoir des discussions, et ben voilà, ça sera gagné pour moi. J'ai commencé en musique, je veux finir en musique. Ce sera un peu plus gay. Je veux juste que vous écoutiez les paroles et que en fait vous projetiez, si vous pouvez, votre couple sur ces paroles là. C'est ce qu'on vient de dire.
Gros stuff, mais ce sera plus gay.
Les voir se regarder, on ressent l'évidence. Les voir se parler avec des yeux immenses. Faut les voir en soirée, il faut voir leur aisance. Ces couples qui résistent, les amours déclarés qui sentent la réjouissance.
Juste le refrain.
Et les projets qui grandissent. Peut-être pas le seul, mais si tu veux qu'on insiste, alors c'est que toi aussi tu penses que ça existe. On prendra que ce qu'on est, que ce qu'on s'aime, que ce qu'on sait, que ce qu'on sera. On s'entête et moi je veux nous deux contre le reste du monde.